Et bonjour à toutes et à tous, salut les uns, salut les autres, vous êtes à l'écoute de Fréquence 7, c'est L'Onde Curieuse, votre magazine d'information locale et loquace. Salut Sylvain.
Salut Quentin.
Ça va, t'as passé un bon week-end ?
Très bien, et toi ?
Oh, oui, ça va, ça va. Salut à tous ceux donc, qui ont profité des festivals en cours, la Baume en musique, le Loupoulot, ceux qui ont participé au grand succès de la fête de la transhumance à Jaujac aussi. Voilà, bonjour tout le monde, bon début de semaine. La deuxième partie de cette émission, ce sera un entretien avec un auteur africain. C'est un entretien qui a été mené par Olivier Horry. Moi, je n'avais pas d'invité en direct pour le plateau ce lundi. Je vous propose de retrouver ça en deuxième partie d'émission, mais pour le moment, c'est l'heure de quelques infos locales. La grande nouvelle de ce début de semaine, c'est la venue d'Emmanuel Macron en Ardèche demain. Et oui, on le sait, le grand dada de Manu, en ce moment, c'est la réindustrialisation de notre pays. Donc Emmanuel Macron se déplace dans le nord de l'Ardèche pour visiter, il va à Champagne pour visiter les laboratoires Aguetant. C'est une usine lyonnaise qui a ouvert un deuxième site de production en Ardèche. Ils font tout plein de produits, leur spécialité à eux, c'est l'injection. Donc selon l'Elysée, le déplacement est le premier d'une série sur le renforcement de notre souveraineté industrielle et technologique, et plus particulièrement la relocalisation des productions de médicaments. Puisque après le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait des pénuries de médicaments chroniques dans les pharmacies, que la France était complètement dépendante de la Chine en matière de médoc, mais aussi en matière de minerais, de textiles, en fait d'un peu tout. Et ça permet donc à Emmanuel Macron d'avoir un discours populiste auprès des nostalgiques de la grandeur industrielle de la France. Il faut dire que c'était facile la grandeur industrielle au XIXe siècle, avec une main-d'œuvre corvéable des usines, le pillage des ressources dans les colonies, les journées de travail de 12 heures, les mines, les fonderies, les usines qui ont défoncé à la fois notre patrimoine naturel et le tissu social des pays, industriels. Ça a tenu bon en France jusqu'aux grandes grèves de 1936 qui ont abouti d'abord à la semaine de travail de 40 heures, aux congés payés, à la mise en place d'une allocation chômage. Et puis au fil du XXe siècle, les conquis sociaux ont rendu la main-d'œuvre française plus chère. Les mines ont fermé, les industries ont souvent délocalisé vers l'Europe de l'Est ou vers l'Asie. C'était un peu une suite normale, même si on s'est alarmé de cette fuite des capitaux. Aujourd'hui, Macron souhaite le retour d'une industrie bleu-blanc-rouge, mais une industrie française efficace sur un marché concurrentiel mondial. Aujourd'hui, ça suppose ce qu'on a commencé déjà à faire, c'est un bon détricotage du code du travail, une main-d'œuvre pas chère et peu qualifiée, des intérimaires par exemple, qu'on peut mettre en concurrence sur un marché du travail, le saccage des ressources naturelles pour assurer une production de grande échelle. Donc que ceux qui craignent que l'écologie et la sobriété nous ramènent au Moyen-Âge soient à l'affût, Macron veut nous faire revenir au 19e siècle, et croyez-moi, c'est pas le paradis. Ensuite, un constat qui est porté depuis longtemps par les syndicats de l'éducation nationale, c'est le rôle central des AESH et des AED dans les écoles. Les AESH, c'est les assistants d'éducation, enfin les assistants d'élèves en situation de handicap. Les AED, ce sont des assistants d'éducation. Ils suppléent un peu au travail des professeurs et des instits. Et c'est des métiers qui sont profondément déconsidérés. Ils se plaignent de payes ridicules. Là, en ce moment, on essaie de faire fusionner donc AESH et AED au sein d'une nouvelle entité, alors qu'en réalité, il y a des missions pédagogiques assez plutôt très distinctes. Donc AESH et AED font un boulot incroyable, ils vont parfois jusqu'à endosser l'essentiel de la mission pédagogique dans certaines classes, et quand le gouvernement a engagé une grande concertation autour de l'école inclusive sans inviter les personnels AESH, la colère a grimpé d'un cran. Et donc, suite aux fortes mobilisations, donc ça c'est un peu le communiqué de la FSU, suite aux fortes mobilisations de ces dernières années et aux difficultés de recrutement, le ministère a consenti à la CDIisation au 1er septembre des AESH qui cumulent 3 ans d'ancienneté. Néanmoins, cette mesure reste très insuffisante au regard des conditions salariales, d'emploi et de travail des AESH. La réussite de leur mission auprès des élèves handicapés et ou en grande difficulté est liée aux questions de la rémunération, des conditions de travail, de la formation et du statut. L'école ne peut être vraiment inclusive tant que les AESH qui la mettent en œuvre sont privés d'un vrai statut de la fonction publique. L'annonce de la création d'un nouvel emploi regroupant les AESH et les AED est une nouvelle étape dans le mépris. Donc la FSU relaie les appels à l'aide des AESH depuis plusieurs mois. Là, moi, je reçois un peu des courriels réguliers. Aujourd'hui, une intersyndicale appelle à un grand mouvement de grève dans les écoles dès demain, mardi 13 mai, pour refuser la précarité immense de tous les personnels de l'éducation nationale. Donc les revendications principales, c'est donc la création d'un statut fonction publique, l'augmentation des rémunérations, la garantie de pouvoir travailler à temps complet sur la base d'un accompagnement d'élèves de 24 heures. Le recrutement des AESH qui manque pour permettre à tous les élèves handicapés de bénéficier d'un accompagnement à la hauteur de leurs besoins, et bien sûr la garantie d'accès à des formations à la hauteur des missions donc endossées par ces personnels. Donc rendez-vous les uns les autres le 13 juin, demain. Renseignez-vous auprès des syndicats de l'éducation nationale pour connaître les lieux de rendez-vous. Sachez que la visite d'Emmanuel Macron est aussi accompagnée d'un appel de plein d'organisations et de syndicats à se réunir tambour battant donc devant l'usine à Guétan dans le nord de l'Ardèche. Merci. Ensuite, toujours dans les informations, vous noterez le petit fil rouge. Aujourd'hui, c'est le fil rouge de l'emploi dégradant et dégradé. Le nouvel outil de la Chambre de commerce et de l'industrie qui s'appelle Cet été, je bosse en Ardèche. Alors, Cet été, je bosse en Ardèche, c'est une campagne de communication pour inciter les jeunes à travailler dès l'âge de 16 ans pendant les vacances scolaires, histoire de compenser le manque de main-d'œuvre saisonnière depuis 2 ans dans le secteur du tourisme. Alors le président de la CCI, Marc Souterrain, explique dans le Dauphiné Libéré ce matin, trouver des saisonniers a été une épreuve en 2002 pour les entreprises en lien avec le tourisme. Toutes n'ont pas trouvé de solution pour pouvoir fonctionner normalement. Et il rappelle les grands chiffres du tourisme. Donc en Ardèche, c'est 2 millions de touristes par an, 670 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés par 1600 entreprises. Ça concerne 8600 emplois, d'où l'idée de faire un appel aux jeunes à partir de 16 ans. Alors, légalement, les jeunes peuvent même travailler dès 14 ans, même si la campagne vise les 16 ans et plus, ajoute Véronique. Véronique comment? Véronique Chevalier, qui elle est vice-présidente de tourisme à la CCI. Alors, chers parents, préparez vos enfants. Avec la marche en avant vers le 19e siècle, vous pourrez bientôt travailler moins en envoyant vos enfants le faire à votre place. Après tout, dès 8 ans, on est capable de nettoyer des chiottes, il n'y a pas besoin de grands talents cuisiniers pour servir de la bouffe surgelée dans les snacks des campings. Sinon, on pourrait s'imaginer que les entreprises du secteur touristique vont s'accorder sur l'importance de traiter bien leurs employés, ou de les payer correctement, de les former à leur métier pour en faire des vrais atouts. Il y a quelques entreprises ici dans le Sud-Ardèche qui le font déjà très bien, et il y en a d'autres qui semblent oublier cette vieille rengaine marxiste qui est désuète, quoique toujours vraie, c'est que c'est le travail qui crée le capital et non pas le capital qui crée le travail. Il suffit, même si la droite martèle le contraire, il suffit de voir la crise que traverse le secteur touristique et les emplois saisonniers pour se souvenir que sans employés, il n'y a plus de fric à gagner. Voilà. Ça, c'était mes 3 petites infos sur le fil rouge du travail et de la marche en avant vers le 19e siècle. D'autres essayent d'avancer. Il y avait ce dimanche 11 juin le congrès annuel de la Fédération de pêche de l'Ardèche. Ça s'est tenu à Viviez. Il y a plus d'une centaine de pêcheurs ardéchois qui étaient au rendez-vous. Et les grands thèmes, c'était les sécheresses récurrentes et les enjeux écologiques. Alors, la plupart des AAP, PMA, les associations de protection du milieu aquatique, ont mis en avant le rôle des jeunes pour promouvoir une pêche éco-responsable en encourageant les pratiques du no-kill, donc ça veut dire on capture, on relâche les poissons, et en proposant des limitations à la capture des brochets et des truites. Je note par ailleurs que l'AAP PMA Baume-Droby, qui est particulièrement engagée dans la protection des rivières, ils sont à la recherche de bénévoles tout l'été pour faire des veilles sur le secteur, donc la Baume, la Droby, la Lune, tout ça. Au programme, prélever des échantillons d'eau, mesurer les niveaux, sensibiliser les touristes aux pratiques respectueuses de l'environnement, etc., etc. Renseignez-vous auprès de l'AAP PMA Baume-Droby. Si vous avez 14 ans et plus et que vous voulez travailler cette fois gratuitement, remplissez des missions avec eux. C'est sympa, c'est chouette et c'est utile là. Une dernière information aussi que j'ai reçue ce week-end, c'est un groupe d'habitants de Rocher et des alentours, donc Rocher au pied du col de la Croix de Millet, qui se sont rassemblés avec pour objectif la création d'une épicerie conviviale au centre du village. Ils sont en train de créer une épicerie associative, donc l'épicerie de Rocher, association à but non lucratif qui viserait à assurer la vente de produits locaux et de première nécessité. Donc les objectifs principaux, c'est bien sûr valoriser des produits de qualité de nos producteurs et artisans, proposer des produits de première nécessité abordables aux habitants du coin, créer un lieu de rencontre et favoriser donc le lien social, l'entraide, la solidarité. Bref, faire revivre un peu le village en organisant des fois des activités, des événements. L'association donc propose de créer des liens par l'intérêt commun que représente une épicerie associative, donc l'alimentation des producteurs locaux, voilà, tout ça dans le respect du territoire de vie et du rythme des saisons. Si je vous en parle, c'est parce que ce groupe d'habitants de Rocher a monté une cagnotte collaborative, participative, ouverte à toutes et à tous, pour réunir les quelques 8500 euros qui leur permettraient de mener leur projet à bien. Donc si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, sachez que tous les dons, chaque euro compte, et tous les dons sont bienvenus. La cagnotte s'appelle l'épicerie de Rocher, sur le site www.helloasso.fr.com, je crois, je sais plus. Voilà, c'est tout pour les petites infos de ce lundi matin. Je vous propose de continuer en musique avec un petit rockabilly. Voilà, ça fait du bien à entendre. Là, j'avais besoin d'un peu de douceur et de soleil. Ça s'appelle Everything's Alright. C'est les House Wreckers sur Fréquence 7. House Wreckers sur Fréquence 7, c'était Everything's Alright. House Wreckers, du coup, moi, récemment, là, je me suis un peu. Je me suis un peu passionné pour le psychobilly. Là, c'est vraiment une mouvance musicale que j'ai découvert, du rockabilly, punk. C'était assez génial. Et du coup, en explorant tout ça, je me suis rendu compte que ça avait démarré avec pas mal de groupes anglais. Ça a été repris un peu aux États-Unis aussi. Et en Scandinavie, en fait, ça a essaimé à fond le rockabilly depuis les années 70. Donc des groupes un peu partout, au Danemark, en Norvège, en Suède. Là, les Housewreckers arrivent de Finlande. C'est l'heure de retrouver du coup notre plateau du jour. Donc aujourd'hui, c'est pas un plateau en direct du studio de Fréquence 7 puisque j'ai trouvé personne. Écoutez, ça arrive de temps en temps. Je vous propose donc d'écouter une entrevue qui a été réalisée par notre confrère Olivier Horry. Donc c'est lui qui présente et qui anime les Jardins Suspendus notamment sur Fréquence 7. C'est un philosophe. C'est un passionné de littérature et il nous livre cette entrevue avec Wilfried Steve Mungengi. Alors Mungengi, c'est un auteur, c'est un Gabonais qui est venu en France étudier, écrire. Cet entretien a été fait à l'extérieur de Fréquence 7, ça s'est fait, je crois, à la librairie du Tiers-Temps. Et c'était à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Mungengi qui s'appelle Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde. Je vous laisse écouter ça et on revient après avec la suite du programme de l'après-midi sur Fréquence 7.
Steve Wilfried Mungengi, bonjour.
Bonjour.
Je suis bien content de vous rencontrer ici à Aubenas. Vous avez fait un assez long voyage, bien qu'un peu rapide grâce au TGV, la magie du merveille, puisque vous nous venez de Paris. Vous venez présenter votre livre. Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde, paru cette année aux éditions Mot Conduit. C'est un livre particulièrement consacré à votre mère, qui pour cette raison-là est extrêmement touchant et émouvant. On aura évidemment probablement l'occasion d'y revenir. Conformément à mon habitude, maintenant, cette interview, j'ai l'intention de la mener sous forme d'abécédaire. Je prends une lettre au fur et à mesure de l'alphabet. J'ai choisi un mot qui me paraît évidemment adapté à la personne avec laquelle je parle.
D'accord.
Pas tout à fait par hasard. C'est pas les mêmes mots avec toutes les personnes que j'interview. Évidemment, j'adapte un tout petit peu. Vous allez voir à quel point d'ailleurs. Je n'ai pas été du tout original pour la première parce que j'ai choisi A comme Afrique. Vous voyez, c'est pas très original. Vous nous venez du Gabon. Le Gabon, c'est Libreville, Port-Gentil, Lambaréné, etc. Bon, on ne va pas décrire le Gabon, mais comme vous êtes philosophe de formation, alors vous êtes certainement sensible aux mots, aux concepts. Et j'avais envie de poser une question quand même un peu plus précise concernant l'Afrique, c'est s'il fallait mettre Afrique au pluriel ou pas. Est-ce que c'est l'Afrique ou les Afriques? Parce que bon, il y a déjà Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Bon, c'est l'Afrique de l'Ouest, le Gabon. Mais pluralité ou singularité, les deux?
Alors les deux, je pense, je suis pour la complexité dans tous les cas. Oui. Je suis pour la complexité, l'Afrique d'abord parce qu'il s'agit d'une masse continentale et même lorsqu'on prend les îles à côté, il s'agit quand même d'une masse, hein, même si on a des archipels et des îles. Mais l'Afrique c'est d'abord ça, des gens, des vies, un territoire sur un même continent. Et puis les Afriques, parce que au-delà de cette masse continentale, il y a des variations dans le paysage, il y a des variations dans les cultures. Et même si on retrouve un substrat commun pour la plupart d'entre elles, donc oui, les deux, la complexité. L'Afrique, lorsqu'on la regarde de loin et puis lorsqu'on l'approche et de l'intérieur, on s'aperçoit aussi qu'il y a des Afriques. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on fait référence à cette Afrique-là. D'aller voir aussi ce que cette Afrique renferme d'Afrique au pluriel.
D'Afrique au pluriel.
Oui, de singularité. Oui.
Alors avec j'imagine, des problématiques communes et des problématiques singulières aux différents
Absolument,
territoires. Oui. Est-ce que la question de la colonisation, c'est une problématique commune?
Oui, je pense que d'ailleurs, d'un point de vue historique, oui. Puisque l'ensemble du continent, à l'exception de l'Éthiopie, a été colonisé.
À l'exception de l'Éthiopie.
À l'exception de l'Éthiopie.
Ah, j'ignorais, je croyais que les Anglais y avaient mis les pieds.
Non, ils ont été boutés comme les Italiens, comme tout le monde de ce côté-là.
Oui, de ce côté-là.
Donc de ce point de vue-là, on a quelque chose en commun qui nous réunit en termes de substrat historique, oui.
Ah, oui.
Et ensuite, dans la manière dont on se construit aujourd'hui, il y a ce défi qu'on a en commun de relever le continent, chaque pays à sa manière. Et là, on se rend compte qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. On se rend compte que le monde anglophone s'en sort encore mieux que le monde francophone, l'Afrique francophone.
Vous pensez au Kenya, par
voilà.
Exemple.
Oui, je pense au Kenya, mais pas que. Le Ghana, le Nigeria, oui. Et plus loin, l'ex-colonie du peuplement qui était l'Afrique du Sud, hein,
oui,
qui est de loin une nation qui ne ressemble presque à aucune autre en Afrique, même si oui. On retrouve
oui, c'est
après
une brique,
des voilà.
Le Brésil.
Donc de ce point de vue-là, oui. Oui, on a quelque chose en commun et on a donc un défi qui est celui de penser notre présent et surtout notre devenir en tant que continent et en tant que pays, pour pas revenir aux singularités.
Je pensais au phénomène connexe de la colonisation, c'est-à-dire justement la décolonisation. On pouvait imaginer qu'après une colonisation qui était surtout un effet de la force pure, finalement, qu'elle soit militaire ou économique, on pouvait penser que les choses reviendraient dans l'ordre en Afrique, une fois le colon parti, un petit peu comme un ressort reprend évidemment sa forme dès qu'on est. Et non! Les territoires et les peuples qui vivent n'ont pas repris leur forme. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable?
Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable. Ce que je dois dire, c'est que pour ce qui concerne l'impact de la colonisation, on est entré dans un âge, j'ai envie de dire, décolonial. On travaille à défaire les nervures installées par le système colonial. Et on s'aperçoit que les colons sont peut-être partis, mais j'ai envie de dire qu'ils restent les producteurs du spectacle. Et que même partis, je trouve que d'ailleurs c'est là la plus belle ruse, parce que l'Afrique ou les Afriques ne sont pas parvenus à reprendre complètement leur destin en main, puisque leur imaginaire, notre imaginaire, pour ne pas dire le leur, notre imaginaire est complètement travaillé par ce qui a eu lieu.
Même
par
vos,
cette aliénation.
Nos spiritualités,
notre politique, nos manières de penser la société, notre façon de nous représenter nous-mêmes.
Mmh.
Là, je pense à un philosophe, Moudimbe, qui parle de l'odeur du père. Et qui recommande en tout cas de se méfier et d'aller chercher où est-ce que le père parle encore à nous, même lorsqu'on en a commis le meurtre. Donc, et là oui, même si on estime que les indépendances, ou on peut penser qu'elles sont comme ça, le meurtre du père, mais le père est encore là en nous et il continue de... Sa parole prolifère encore. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de ce continent qui s'engage dans une pensée qui se veut décoloniale, plus pour bouter la colonisation comme ça s'est fait dans les années 60 pour certains pays, mais plutôt pour aller déplier l'archive coloniale et pour voir dans notre imaginaire ce qui relève encore de la colonialité.
Oui.
Donc nos modalités de gouvernance, par exemple, en tout cas celles de nos hommes politiques, notre façon de nous représenter nous-mêmes en tant qu'Africains, notre manière d'imaginer une vie digne. Voilà. Oui. Est-ce qu'on le fait par rapport à des référents qui sont les nôtres, ou est-ce qu'on le fait par rapport à des référents qui nous viendraient
des colons finalement.
Voilà.
Oui. Avec... Oui. Moi, il me prend l'envie de rêver, c'est-à-dire que bon. Effectivement, je ne pense pas qu'il soit souhaitable que vous retrouviez une hypothétique forme antérieure. Enfin, je crois que ce n'est pas la peine. Et en même temps, cette logique des colons, enfin, j'ai l'impression que les premières contrées qui ont été colonisées par les colons, c'est les contrées des colons eux-mêmes. C'est-à-dire que nous avons monté, élaboré des modèles sur nos propres territoires européens ou américains du Nord, qui se révèlent insoutenables finalement.
Absolument.
Est-ce qu'on ne pourrait pas se décoloniser ensemble?
Ben, si, je pense que c'est un travail à faire et le travail qui a lieu, je parle comme cela, hein, le travail qui est fait ici, en Europe même, par ces groupes, par ces associations, par ces rassemblements spontanés qui demandent que ce qu'on appelle les minorités ou autrement les immigrés autres soient pris en considération, ça participe de ce travail décolonial à l'intérieur même des grandes puissances.
Oui.
Donc là, c'est une invitation à faire ensemble. Mmh. Ce qu'ils demandent, ces groupes-là, c'est qu'on regarde l'histoire et qu'on essaie d'aménager des contextes de dignité pour ceux-là qui, hier, appartenaient, en tout cas faisaient partie des peuples colonisés et qui maintenant vivent ici. Et l'enjeu avec nous qui sommes avec l'Afrique, et là je pense singulièrement à la relation France-Afrique, je crois qu'il y a un travail à faire ensemble. Et je vous suis sur l'idée qu'on n'a pas à chercher à retrouver un état antérieur, d'abord parce que ce ne serait pas possible.
Oui, oui. On remonte pas le temps.
On est né d'une certaine manière, l'Afrique actuelle, moi j'ai coutume de penser qu'elle est née d'un viol, cette rencontre violente. Okay, elle naît de là, c'est vrai, mais elle est là. Donc il faut la penser à partir de maintenant, en prenant acte de ce qui s'est passé, en se demandant qu'est-ce qu'on invente pour la suite. Ouais. Donc ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est une pensée du présent, une pensée de l'avenir, une pensée qui soit en capacité de formuler l'invention.
Ouais.
Donc c'est là où je vous rejoins. Oui. Cette invention, elle doit se faire ensemble. Or, la difficulté, c'est que c'est vrai que lorsqu'on commence à intervenir ou à prendre la parole en Occident et qu'on est issu d'ailleurs, on est vu comme quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, comme... Alors c'est quoi les wokistes.
Ah oui,
le terme consacré, c'est wokiste, oui. Hein, dans les médias et parmi les hommes politiques. Alors que non, cette demande qui est adressée par ceux-là même, qui estiment avoir été jusqu'ici et à juste titre invisibilisé, c'est une demande de reconnaissance.
Oui.
Et... cette demande de reconnaissance, je pense qu'elle mérite d'être entendue,
oui,
d'être débattue.
Peut-être conçue comme réciproque. C'est vrai que le mot de viol est un mot fort, mais c'est un mot, je crois, en vous suivant, qui nous permet d'envisager l'avenir aussi comme une réparation d'un traumatisme fort. Quoi.
Absolument.
Hein. Et quelque chose qui serait en même temps de l'ordre du soin, de prendre soin les uns des autres pour avancer ensemble, effectivement. Bon, on va parler un peu quand même littérature. Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde est un livre qui m'a énormément touché. Alors je suis dans mon abécédaire, je cherchais une lettre. J'ai choisi B comme bar. Alors, c'est pas un livre sur les bars.
Non.
Mais quand vous allez quitter votre maman au tout début de l'ouvrage, vous passez devant un bar où là, on entend de la musique, les gens dansent, et vous dites le bruit... inonder le silence.
Ah oui.
Et j'ai trouvé l'expression très belle et beaucoup plus tard, je crois que c'est à Port-Gentil, votre maman fait commerce un peu de vin de canne.
Absolument.
Oui. Et alors il y a des gens qui viennent boire leur vin de canne, on sent qu'ils sont quand même beaucoup plus dépendants du vin de canne que de la maman.
C'est vrai.
Et je me demandais si au lieu de B comme bar, on pouvait pas dire B comme blessure. C'est cet endroit-là où on se réunit pour boire,
oui,
éventuellement pour danser, écouter de la musique.
Oui.
Ce sont des endroits violents un peu, non?
Non, pas vraiment. Je pense que ce sont des lieux de socialité. Parce que, comme on voit au café ici, avec ceci, en plus qu'on n'est pas chacun dans son coin, on vient là véritablement pour faire société. C'est vraiment un lieu de commerce. Et là, pour le coup,
oui,
c'est commerce au sens de la rencontre, de la conversation, de l'échange. Et oui, les adultes de cette époque-là, et ça n'a pas changé d'ailleurs, les adultes se retrouvent là pour voir des copains. Et puis d'autres viennent tout simplement au petit bonheur de la chance, en espérant en prendre un verre et se voir offrir un autre voilà, par un autre buveur qui serait là et plein de générosité. Non, c'était vraiment un lieu de vie. Et il a marqué comme ça mon enfance, parce que ma mère, aussi loin que je m'en souvienne, presque toujours eu un bar, gérer un bar. Et on aimait être là parce qu'on voit de tout, c'est la cour des miracles. Les gens sérieux, les gens qui, une fois qu'ils ont bu, sont tout à coup moins sérieux, se lâchent, comme on dirait. Donc c'est plutôt un endroit de bonheur. La blessure, c'est quand je songe à ce bar, parce que ce bar, il permet de, comme ça, de graver les moments d'une vie. Et notamment la nôtre, le faste peut-être entre griffes de la vie de ma mère. Depuis le moment que j'évoque dans le livre, où ce théâtre finalement se vide. Et là, c'est le début de quelque chose qu'on ne soupçonne pas. Et à ce moment-là, je ne soupçonne même pas que ma mère est affectée à ce
point.
Voilà, à ce point.
D'ailleurs, les gens qui fréquentaient le bar, et même des gens beaucoup plus proches, ne sont pas très reconnaissants.
Non.
C'est, je pensais à ça. Quoi,
c'est ça. Blessures. Oui, mais blessure, oui, parce que là, de ce point de vue-là, parce que effectivement, c'est des gens qui travaillent dans les barges pétrolières. C'est des gens qui travaillent dans les barges pétrolières, ils partent de longues semaines, en général deux, puis ils reviennent. Et même à une époque, c'était un mois, ils revenaient pour une semaine sur Terre. Et quand ils reviennent, un peu comme des marins, ils ont envie de se défouler. Et donc parfois, ils écument les bars et ils y laissent leur salaire. Et puis, quand ils ont fini de laisser leur salaire ailleurs, c'était la lecture sociologique que faisait ma mère, ils venaient chez ma mère et là, ils espéraient qu'on leur on leur fasse une ardoise, oui.
Voilà.
Ils espéraient boire... gratuitement, en tout cas, qu'il y reviendrait payé plus tard après la prochaine mission.
Après la prochaine mission, oui. Ouais. Vous apportiez les petits morceaux de viande alors ?
Oui, parce que ceux qui boivent aiment bien manger quelque chose de pimenté. Et donc, on nous envoyait chercher de la viande qu'on appelle des coupés-coupés, c'est de la viande grillée au feu. Ils adoraient. Et moi j'en profitais pour faire mes mesquineries.
Prendre le morceau le plus gras.
Je prenais les morceaux les plus gras parce que les adultes n'aiment pas les morceaux gras. N'aimaient pas en tout cas. Et je les ramenais comme ça je savais que.
Oui.
Qui nous les donnerait.
Oui, c'est ça.
Voilà, quitte à aller chercher un autre.
Oui.
Voilà, c'était ma façon de les taxer.
ça prévient, ça permet de prévenir un manque de reconnaissance.
C'est ça. C'était une façon de les taxer.
Ouais. Voilà. Alors ça va être bizarre dans la mesure où c'est comme chinois. Alors je m'explique. Je m'efforce depuis plusieurs années de traduire le classique du chemin et de la vertu de Lao Tzu. Et au chapitre 24, commence par celui qui se tient sur la pointe des pieds n'est pas stable, ne tient pas droit, quoi. Hein. Je ne vous fais pas en chinois, parce que ce serait une insulte aux camarades chinois. Le deuxième verset, c'est « Celui qui enjambe ne peut pas être pratiquant. » C'est un mot « xing » qui signifie pratiquant, qui signifie aussi le métier, la profession. Enfin, ça signifie d'une certaine manière que quand on est en train d'enjamber, ben, ce n'est pas très pratique. C'est malaisant, c'est compliqué. Évidemment que quand j'ai dû, je me suis vu en train de traduire cette phrase, j'ai pensé au titre de votre livre, vous avez un pied au Gabon, vous avez un pied à Paris, vous enjambez, et c'est malaisant. C'est vrai ?
C'est vrai.
Comment ce malaise se fait sentir ?
Il se traduit déjà, d'un point de vue factuel, il se traduit par le fait que le pays dans lequel on arrive n'est pas prêt ou n'est pas forcément disposé à vous recevoir. Donc vous avez un statut d'immigré et vous avez surtout la carte de séjour qui va avec.
Excusez-moi, mais j'ai un passage du livre qui me revient, c'est dans la chambre du Crous. Si t'es pas content, rentre chez toi.
Voilà.
Vous les dérangez avec vos pleurs.
C'est ça. C'est ça. Et ça, la préfecture aussi nous le dit de la même manière. Et donc, disons, point de vue administratif, on a un statut très précaire. Parce qu'il y a des choses auxquelles, des droits auxquels on n'a pas droit. Ça, j'ai l'écrit comme ça aussi. Des droits auxquels on n'a pas droit parce qu'effectivement, on est immigré. Et puis, d'un point de vue existentiel, ça se traduit par la difficulté d'avoir un lieu à habiter. Mmh. Un lieu où on se reconnaît enfin chez soi. Mmh. Parce qu'on pourrait partir comme ça. D'où cette idée aussi d'enjambement, de mouvement. Finalement, on est en mouvement, ce qui est plutôt intéressant puisque c'est un signe de vitalité. Mmh. Mais ça montre aussi qu'on n'a pas de demeure. Mmh. On n'a pas de demeure. Et on ne l'a même plus là où on vient, puisque quand on est parti depuis 20 ans, comme moi, 21 ans désormais, quand on est parti depuis aussi longtemps, il y a quelque chose de ce pays-là qui se perd. Mmh. Mais en même temps, on n'est pas arrivé là où on va, là où on est. Mmh. Donc le malaise, il se traduit là. Qui suis-je?
Où suis-je?
Quel est mon lieu? Mmh. Quelle est ma demeure?
Eh ben, je vous assure que ce n'est pas une blague, mais cet idéogramme Xing, qui signifie donc pratiquer, etc., signifie aussi quitter la maison. Et par conséquent, le verset se traduirait « Celui qui enjambe ne peut pas quitter la maison. »
Ouais.
C'est beau.
Oui.
Et je pense, vous retournez au Gabon, vous allez voir vos frères ou sœurs.
Je suis reparti une fois, à la parution, quand j'ai achevé ces livres, je me suis senti prêt pour repartir. D'accord. 16 ans après. Et donc je suis reparti en 2018. Ça faisait 16 ans que je n'avais pas revu mon pays.
Alors, à moi de vous faire une confidence. Et puis, on terminera sur cette confidence. C'est un petit peu égocentré, mais je vais servir de point final à notre... Quand j'ai refermé votre livre, il y a une sorte de post-scriptum où vous expliquez vos motivations et où, finalement, vous dites « C'est pour ma mère et c'est pour mon rapport à ma mère que j'ai écrit ce livre. Mm-hmm. » Je vous assure... Je vous assure, qu'en refermant le livre, j'ai eu l'impression que votre maman était dans le livre, et que chacun pouvait la garder avec soi, comme réconfort, d'une certaine manière, parce que c'est une maman qui assure, quoi. Est-ce que ça vous parle?
C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, en tout cas au sujet de ce livre. S'il parle à d'autres comme cela, avec la même intensité qu'il me parle à moi, oui. Oui, parce qu'en plus, c'est une figure universelle que celle de...
Complètement, Yaya.
Que celle de Yaya. Hein. Mm-hmm. Il y en a plein comme ça, des ouais. Yaya. Et là, je voulais vraiment lui rendre cela, parce que je lui devais, c'était une femme digne. Je devais lui rendre cette place qu'elle a occupée, en fait, dans nos vies, dans la vie de ses enfants et même au-delà parfois.
Oui, eh bien, je crois que on va s'arrêter à la lettre C. Vous m'avez donné la lettre D et je crois qu'on finira comme ça. Ça sera D comme dignité. Et je crois que la dignité, c'est ce que vous nous enseignez dans ce livre, hein, Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde. Merci Steve et Wilfried Montpensier.
Merci Olivier de m'avoir reçu dans votre émission.
Et voilà, c'était une interview de Wilfried Steve Mungengi, réalisée par Olivier Horry. Et donc, je me suis mépris en l'annonçant, c'était pas à la librairie du Tiers-Temps, c'était à la librairie du Château que se déroulait cette rencontre. Une rencontre qui, du coup, rajoute une pierre de plus à l'édifice de la décolonisation des esprits. Merci à tous les deux d'avoir partagé cette conversation avec nous. Je vous propose d'aller doucement vers la fin de cette onde curieuse du lundi en vous annonçant ce qui se passe pour la suite de la journée. Retrouvez donc la voix d'Olivier Horry très bientôt, dans 20 minutes, puisqu'à 13h, c'est son émission Les Jardins Suspendus. À 15h, vous retrouvez le Telex et vos messages sur notre boîte vocale au 04 75 93 30 25 pour annoncer vos petits événements, vos coups de gueule, vos coups de cœur. N'hésitez pas. À 17h, on rediffuse l'onde curieuse de ce midi. 18h, c'est un nouvel épisode de Solidaire d'abord. Et à 21h, DJ Steph vous représente un nouveau Hexagone Live. Cette fois, c'est Léo Ferré en concert au Théâtre Municipal de Lausanne. Ça remonte au 16 mai 1973 et c'est restitué par DJ Steph dans Hexagone Live à 21h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi sur Fréquence 7. On se retrouve demain midi pour une nouvelle onde curieuse. Salut.